Interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et metal, enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, je vous souhaite la bienvenue dans le 45e épisode de La Fosse, le podcast rock et metal, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur toutes les plateformes de podcast possibles, Spotify, YouTube, Deezer, etc., Google, Samsung, il y en a plein, Apple, etc., etc. Comme aujourd'hui c'est le dernier jeudi du mois de mars, nous sommes au Hellfest Corner pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct dans le bar parisien à Châtelet. Comme chaque semaine, j'interviens un groupe de métal ou de rock et pour cette émission spéciale du mois de mars au Hellfest Corner, j'ai le plaisir de recevoir les Tambours du Bronx, représentés par Dom, percussionniste pendant plus de 20 ans et désormais guitariste, ainsi que Stéphane Burier, chanteur-guitariste de Loudblast et donc également l'un des chanteurs des Tambours du Bronx. C'est l'une des nouveautés, bonsoir à vous.
Salut. Bonsoir.
Et oui, voilà, il faut être bien proche du micro. Merci beaucoup d'être là dans cette émission ce soir. Et surtout, merci aux Tambours du Bronx de ne pas être venus au complet, c'est-à-dire presque une vingtaine, sinon on aurait eu un peu de mal à les caser autour de la table.
Non, ils arrivent.
On va parler évidemment de l'évolution des Tambours du Bronx, puisqu'à la base, c'est un collectif de percussions uniquement. Mais depuis deux albums, c'est un nouveau groupe, on peut dire, avec des chanteurs, des guitaristes, des claviers, un batteur. Et vous avez évolué vers un groupe de métal à proprement parler, donc sur vos deux derniers albums. Vous jouerez avec cette nouvelle formation avec Clone, Psycup et Nano War of Steel demain vendredi 29 mars au Bikini à Toulouse, samedi 30 mars au Transborder à Villeurbanne près de Lyon et au Trianon à Paris dimanche 31 mars. Évidemment, il y a d'autres concerts qui vont arriver cette année, donc on va en parler. Et on va également parler d'un contenu de la plateforme SVOD The Pit. Et le sujet était tout trouvé, puisqu'on va parler du concert des Tambours du Bronx avec Sepultura au festival Rock in Rio en 2013. Voilà, on en reparle tout à l'heure durant l'interview. Juste après l'interview, il y aura comme chaque semaine la chronique de Laurent Rossi, alias Lolo du Hellfest Corner, qui va vous parler du projet Metal pour enfants Eldebert. Et je rappelle aux clients du Hellfest Corner que Gérard Drouot Productions vous offre deux places pour le concert de Megadeth mercredi 19 juin au Zénith de Paris. Pour tenter de gagner des places, il faut demander un ticket pour chaque commande avec un numéro. Donc c'est comme une tombola et je tirerai au sort en fin d'émission. Voilà, je parle beaucoup trop. Les Tambours du Bronx, donc collectif de percussion formé en 1987 dans la banlieue de Nevers, dans la Nièvre, en Bourgogne. Sur une tournée classique, voilà, il y a une quinzaine de bidons sur scène, hein, quelque chose comme ça. Vous avez sorti 7 albums entre 1989 et 2015 avec cette formule. Vous avez tourné dans le monde entier et, chose que je ne savais pas, vous avez par exemple ouvert pour Johnny Hallyday le 10 juin 2000 au pied de la Tour Eiffel. Assez impressionnant, voilà, c'est un genre de truc qu'on découvre lorsqu'on prépare une interview. Comme vous tapez sur des bidons en métal, vous avez des éléments électro, ça vous donne un ton industriel avec en plus des influences rock, metal, hardcore. Comme tu le dis, Dom, vous êtes plus proche de Ministry que de Stomp, hein, un autre collectif de percussions. Et donc, vous avez évolué avec vos deux derniers albums, Womp, Weapons of Mass Percussion, sorti en 2018, et Evil Ocean, sorti en juin 2023, pour devenir un vrai groupe de métal. Il y a deux percussionnistes qui sont passés, je parle beaucoup trop, qui passent donc à la guitare électrique, Ben et toi, Dom. Il y a un troisième qui est passé à la basse, ça c'est Sid. Il y a l'ajout d'un batteur, Franky Costanza, ancien du groupe marseillais d'Agoba, et qui joue désormais dans le groupe de hard rock glam metal Black Rain. L'arrivée également d'Arco Trauma au clavier, artiste de musique électronique avec son projet Sonic Area. Et par-dessus tout ça, il y a un, deux ou trois chanteurs selon les morceaux. Renaud, chanteur de Lofofora ou de Mudvisor, hein, c'est pas Renaud le Renaud hein, évidemment. Stéphane Burier, ici présent, chanteur-guitariste de Loudblast. Et Renato Di Folco, le chanteur de Trépalium et de Drop Dead Chaos. Dom, comment c'est venu l'idée de faire évoluer les Tambours du Bronx? En gros, replace-toi en 2017, je crois. Voilà.
D'accord. Ouais, voilà. Tu situes sur 2017.
Ouais, à peu près. Ouais, voilà. Comment c'est venu cette idée de faire évoluer un petit peu le groupe, le collectif?
Il faut comprendre déjà. On va remonter presque en 87. Les Tambours du Bronx, ça a toujours été des rockers.
Ok. Oui, rockers. C'est ce que j'ai dit. Toujours des influences.
Ouais,
voilà.
Ouais. On a fait de la percussion parce que c'était des gars, des œuvrés, des blousons noirs de l'époque qui savaient pas trop jouer de musique et qui avaient envie d'en faire, qui avaient vu les tambours du Burundi, qui avaient accès à des bidons et qui se sont dit tiens, on va faire pareil avec des bidons. Ça, on l'a fait évoluer au fil des années en rajoutant de l'électro, tu vois, comme tu le dis. Donc ça a évolué. Voilà. Mais les influences ont toujours été quand même dans l'industriel, dans le rock. Voilà, tout vient de là, sauf qu'on s'est jamais autorisé des instruments. Des cordes, par exemple, des choses comme ça sur scène. Tout simplement, en 2017, on joue avec Sepultura sur un festival.
Alors on va reparler de la collaboration avec Sepultura, mais
effectivement, ouais, festival de métal. Donc nous, on est le seul groupe sans guitare à jouer à un festival de métal. Ça se passe très bien. Andreas regarde tout le concert.
Andreas Kisser, guitariste de Sepultura.
Il kiffe à fond. Et puis après, on en parle. Et il dit, écoute, on a un festival qui s'appelle Rock in Rio chez nous, où il y a un artiste brésilien qui invite un artiste international. Ce serait pas mal qu'on fasse un truc ensemble. Et en fait, tout est parti de là. Et ça s'est tellement bien passé. On a tellement apprécié le fait
de jouer. C'était en 2011, ça, alors. Parce que du coup, votre première collaboration avec Sepultura, c'est 2011. Il y a même eu un concert en 2013, du coup, Rock
2011,
in Rio.
2011, c'est le premier, ouais. Rock in Rio. Donc, ouais, on les a rencontrés un peu avant.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Je sais plus, j'ai plus les dates.
Oui, non, mais c'est,
2011,
c'est à peu près ça.
C'est le premier,
ouais,
Rock in Rio, voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc on joue ensemble et en fait, on se rend compte que c'est génial, que ça
passe bien
avec des instruments. Et puis, et ça cartonne, en fait. Même eux sont surpris du succès. On a un article dans le New York Times, on joue à New York, à Times Square quand même. Voilà, on fait des trucs.
Ça colle bien au côté tribal aussi de Sepultura. Voilà,
Et puis on s'entend super bien. Sauf qu'on aurait voulu que ça tourne pour de bon, pas seulement les gros festivals, mais c'était beaucoup trop cher, trop compliqué. Donc ça a fini par s'arrêter, je pense, 2013. On a dû faire le Wacken et puis ça a dû s'arrêter là. Et quelques années après, on s'est dit, mais en fait, on va reprendre ça nous-mêmes. Voilà.
Donc, pas avec des Brésiliens, du coup, cette fois.
Pas avec des Brésiliens, avec des Nivernais.
J'ai une bonne tête de Brésilien.
Tu ressembles pas trop au chanteur de Sepultura actuel, quand même. Et donc effectivement, voilà, dans quel état d'esprit vous étiez en 2017, envie de changement peut-être, par rapport, vous aviez sorti 7 albums.
C'est exactement ça, ouais, c'est une envie de changement en fait. C'est pas envie de refaire la même chose que d'habitude, et puis ce manque aussi de guitare, de puissance qu'on avait sur scène, parce qu'avec Sepultura sur scène, c'est une claque.
On va en reparler tout à l'heure.
Monumentale, et ça nous manquait. Et en fait, ça correspondait aussi à l'arrivée de Frankie Costanza. Frankie Costanza, exactement, à ce moment-là. Alors, pour la petite histoire, Frankie Costanza, qui souhaitait s'inspirer des gestuels des tambours du Bronx, nous commande un DVD sur notre shop. L'un de nous le reconnaît et lui glisse un petit mot.
Genre, une petite vanne.
Si tu t'emmerdes avec Dagoba, nous, on t'embauche.
On a déjà 15, voilà. 15 percussionnistes, viens.
Ça tombe bien.
On savait pas du tout qu'il venait de quitter Dagoba et qu'il était dispo et plutôt branché, en fait.
Ouais. Donc, oui, du coup, il raconte l'histoire, effectivement, dans une petite interview.
Donc, il est venu, pour de bon, il est venu, on a tapé le bœuf, on a joué ensemble, on s'est vu qu'on s'entendait bien et que musicalement, ça collait. Donc, voilà, il y avait cette envie, ce manque avec Sepultura, l'arrivée de Frankie, voilà, il y avait tout un tas de choses qui nous disaient, il faut le faire.
D'accord, il y a eu quelques départs aussi, je crois, au sein des tambours, à ce moment-là, qui, du coup, peut-être aussi...
Des départs, on en a depuis 87.
Oui, j'allais dire, sur une quinzaine de membres, ça a dû pas mal tourner. On va écouter un extrait d'Evolution, le dernier album des Tambours du Bronx, sorti en juin 2023. Et on se retrouve juste après. C'est parti, les Tambours du Bronx, le début de la fin. We'll be right back. Le début de la fin, le morceau qui ouvre le dernier album des Tambours du Bronx, Evolution, sorti en juin 2023. Je suis avec Dom, percussionniste, guitariste du groupe, et Stéphane Burier, chanteur de Loud Blast, qui a rejoint le groupe pour les albums Womp et Evolution. Alors niveau chanteur, c'est d'abord Renaud que vous aviez contacté hein, pour être une voix des Tambours du Bronx. Il a accepté, mais évidemment, vu qu'il a d'autres projets à côté, il a demandé à Stéphane Burier pour les dates où il n'était pas dispo. Stéphane, alors toi, est-ce que tu connaissais les Tambours du Bronx ?
Oui, ouais. Depuis le début, vu qu'on était, on avait signé sur la même maison de disques à l'époque, Fnac Music, ouais. Et on s'était rencontrés sur divers festivals. C'était à l'époque, Tom, t'étais même pas.
J'étais pas né en fait.
Donc oui, forcément, les Tambours, ça a toujours. Enfin, on a eu des parcours en parallèle et ouais. On s'est retrouvé régulièrement sur les mêmes festivals. Donc c'était assez drôle aussi de se retrouver. Après tant d'années, et que, tu vois, avec les anciens de l'époque.
Comment il t'en a parlé? Comment il t'a présenté le projet? Qu'est-ce qui t'a branché?
Renaud, c'était très simple. Je me rappelle très bien de ce moment. J'étais en voiture. Je partais en Allemagne voir un concert de Metallica auquel j'étais invité. Et je vois Renaud qui m'appelle. Je dis, ouais, tiens, plus cool. Il va me donner des nouvelles, machin. Donc je décroche, je dis, ouais, poteau, machin, gna. Je vais rejoindre les Tambours du Bronx pour leur nouvelle tournée, qui va être plus métal. Et je vais avoir besoin d'un backup
ouais.
Pour les dates où je serai pas là. Est-ce que ça te brancherait d'être là? Parce que bon, voilà, avec Renaud, on se connaît depuis très très longtemps. Et on sait qu'on est sur des registres. Pas similaire, mais en tout cas qu'on sait.
Quand tu fais pas du Loud Blast, effectivement.
Oui, puis on a déjà fait des choses, on a chanté ensemble sur pas mal d'autres choses. Et puis voilà, on a aussi cette amitié forte qui nous anime depuis très, très nombreuses années. Donc je t'avouerais que j'ai même pas réfléchi. Il m'a dit, ça te brancherait? J'ai fait oui. Même si mon emploi du temps est absolument élyséen, je me suis dit, voilà, en plus les Tambours du Bronx, c'était. Ça direct, ça pop dans ton esprit, tu fais oui, ça je vais le faire, c'est quelque chose de nouvelle expérience en fait, tout simplement.
Oui, donc ça permet de sortir un petit peu du quotidien.
En gros, voilà, je ne savais pas du tout dans quel bourbier j'allais me foutre. mais à la fois, ce qui a été génial dans cette histoire, c'est qu'à la base, je devais être le doublon de Renaud sur les dates où il n'était pas dispo. Et il se trouve que quand on a enregistré le premier album, quand on est venu à Nevers faire les voix, on s'est vite rendu compte qu'en fait les deux voix fonctionnaient super bien ensemble et que d'un doublon, en fait, c'était plus
complémentaire. Et ouais, ça apportait quelque chose.
Et sans forcer la main à quoi que ce soit, hein, c'était pas dans mon camp en fait. Hein, fallait que ça vienne aussi des Tambours, que qu'ils aient cette envie aussi de peut-être encore changer l'emploi du temps, changer la façon de travailler.
Ajouter quelqu'un d'autre.
Et il se trouve que ça s'est fait très vite, vu qu'en plus la première résidence et les premières répètes qu'on a fait, il se trouve que Renaud ne pouvait pas faire le premier concert.
Donc t'étais direct dans le bain, quoi.
Il a fallu que je me retrouve tout seul.
Ce qui est drôle, c'est qu'il l'a pris une heure avant.
Ah ouais, voilà, c'est pour ça qu'on fait de la musique.
Et autre anecdote, c'est que... Dom me dit, m'avait prévenu mon premier concert, hein, donc le baptême du feu. Il m'a dit, tu vas voir Stéphane, les Tambours, parfois c'est un public de rockers, parfois c'est un public familial, avec papa, maman, les enfants, limite la grand-mère. Et parfois il y a les deux. Et puis voilà, il va falloir que tu t'habitues à pas avoir un public de métalleux, de rockers devant toi. Moi, est-ce que je connais que ça, quelque
oui,
part.
Oui, forcément.
Et premier concert, c'était forcément le public familial.
Avec les grands-mères ou pas?
Il y avait, forcément,
toujours.
Mais c'était un très bon baptême du feu.
Bah oui, effectivement.
Voilà, c'est ce qu'amènent les Tambours aussi, c'est quelque chose, une expérience absolument différente, nouvelle.
Ouais, attention, c'est pas péjoratif, on a vraiment un public familial sur tous nos concerts, y compris les concerts métal.
Bien sûr, et en fait c'est ça qui est assez particulier, comme vous êtes un groupe à la base que de percussions, c'est que c'est assez grand public finalement, ouais. à écouter, et en fait il y a quand même cet aspect métal, et là en plus ajouté avec des chanteurs et des guitares, etc. D'ailleurs, est-ce que humainement le courant est bien passé entre tout le monde, notamment les nouveaux musiciens, c'est-à-dire Franky, Arco Trauma, etc. Ça s'est bien passé l'intégration, Renato aussi, je n'ai pas cité.
Alors c'est primordial chez nous déjà d'engager des gens avec qui on s'entend bien, parce qu'on est super nombreux. T'imagines, on est 20 jusqu'à 21, voire plus, parfois sur la route.
Ouais,
alors quand tu vois comment ça se passe sur un groupe de 3-4 personnes, c'était la condition première. Bon, si le mec est musicien, c'est pas plus mal, mais surtout qu'on s'entende bien.
Et on s'entend bien en fait.
Et on s'entend bien.
Non mais trop parfois. Mais
est-ce que vous êtes des membres à part entière des Tambours du Bronx désormais? Ou parce que sur le premier album, on voyait encore Renaud, Stéphane, etc.
Je me permets de répondre à cette question. Pour moi, oui, sur le show métal des Tambours, oui. ils font partie intégrante.
Bien sûr, on ne va vous abandonner pas du tout le côté classique. On va en parler à la fin de cette émission.
C'est qu'il y a deux spectacles en parallèle et effectivement, les chanteurs n'interviennent que sur la partie métal, mais ils font partie intégrante de cette partie métal. Ils sont le groupe.
Tu te considères aussi comme un membre à part entière?
Oui, mais vraiment, enfin, particulièrement sur le nouvel album, parce que c'est vrai que là, encore une fois, on a un peu refait le crépi, ouais. Et puis aussi il y a eu toute la tournée qui a suivi, qui nous a aussi permis de trouver notre place au sein de cette meute, parce que c'est vraiment une meute, et de se sentir à l'aise, de partager et de savoir aussi comment on allait faire évoluer le projet Weapons of Mass Percussion. C'était important aussi de s'approprier les choses et qu'on nous laisse notre espace. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est vrai que sur le nouvel album, on a aussi abordé notre façon de placer notre chant sur les morceaux complètement différemment par rapport au premier album, qui était un petit peu un premier dépucelage.
Et ben justement, voilà, donc sur l'album Womp, le premier album avec cette nouvelle formule sortie en 2018, donc Weapons of Mass Percussion. Moi je l'appelle Womp, hein. Je sais pas si vous l'appelez WOMP, mais non, Womp, c'est drôle. Et donc à la base, vous aviez des morceaux instrumentaux, je crois, et vous trouviez que ça manquait de chant. D'où le fait d'avoir contacté Renaud, et donc pareil après pour d'autres chanteurs, mais est-ce que vous avez procédé pareil pour Evolution, c'est-à-dire d'abord les rythmiques et ensuite le chant est arrivé, ou alors est-ce vu que du coup cette fois-ci il y avait déjà une ossature de prêtre, est-ce que ça a été fait conjointement?
Alors il y a une différence d'écriture entre les deux albums, c'est-à-dire que Womp, le tout premier comme tu dis, a été écrit presque dans l'urgence. On a écrit un album très très vite, basé sur des morceaux classiques des Tambours, sur des parties qu'on avait déjà, essentiellement. Hein. Et les chanteurs se sont greffés dessus un peu en dernière seconde. Là l'album Evolution a été écrit de A à Z.
Tous ensemble.
Complètement, tous ensemble. Donc les chanteurs étaient déjà là au moment de l'écriture, ils ont été impliqués beaucoup plus tôt dedans, ils ont pu écouter, commencer à envoyer quelques démos, on a pu...
Et aussi choisir les morceaux, c'est-à-dire qu'il y avait... Enfin, faut quand même savoir que quand on commence un deuxième album des Tambours, en tout cas pour Weapons of Mass Percussion, il y a 30 morceaux. Donc il y a 30 morceaux, donc faut...
Et il y a 3 chanteurs.
Mais il va falloir en garder 15 à la fin.
Je crois qu'on en a enregistré 20 et qu'on en a mis 12 sur l'album.
Donc aussi faire son choix, c'est-à-dire quelle est la sensibilité, qu'est-ce que tu ressens plus par rapport à... Et la chance d'avoir 3 chanteurs, c'est aussi de se dire, bon, celui-là il est plus pour moi, celui-là il est plus pour toi, celui-là on va se le partager. Et même pendant l'enregistrement de l'album, on s'est découvert on s'est refilé des parties, on s'est dit, bah tiens, en fait, celle-là, ça serait vraiment mieux pour toi, essaye. Et quand on a passé la semaine ensemble avec Renaud et Renato, il y a eu aussi cette émulsion de chanteur, on se tire la bourre. Genre, ah, tu peux faire mieux, vas-y, essaye autre chose. et ce qu'on n'avait pas eu sur l'album précédent. Et ça a été aussi une écriture différente.
Ouais, ça, et puis enrichissant, j'imagine.
On en sort tous en grandi en fait de ce genre d'expérience, parce que moi c'est pas une expérience que j'ai connue aussi dans le cadre de mes groupes respectifs.
Oui, t'es toujours le seul chanteur.
Oui, ou le seul guitariste dans Sincenum. Voilà, enfin, pas le seul guitariste dans Sincenum.
C'est vrai que j'ai pas cité, t'es aussi guitariste dans Sincenum. Ouais. Mais voilà.
Mais j'ai un autre rôle, tu vois, où je suis plus le rythmique et Fred lui, est le mastermind. Mais encore une fois, là, c'est aussi trouver sa place dans cet édifice. Et c'est pas toujours évident. Sur cet album-là, on a réussi, je trouve, à chacun trouver à coller à ce qu'on était.
À sa place, ouais, exactement, avoir son
espace. Et être au service de ce projet, en fait.
Effectivement. Alors, du coup, cet album, j'ai vu que vous aviez commencé à l'écrire fin 2019, alors que vous étiez en pleine tournée de Womp. Mais évidemment, 2019-2020, bam, arrêt Covid. Donc forcément, ça a un petit peu... J'ai lu que vous aviez baissé les bras un petit peu sur certains trucs. Enfin voilà, il y a eu pas mal de changements, etc. Et que finalement, c'est en 2022 que vous avez vraiment repris l'écriture... Enfin, en tout cas, là où vous l'aviez laissé, je vais y arriver, l'écriture de cet album. pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice et que voilà, chacun ajoute personnellement ses parties, etc. Ça s'est passé comme ça en gros.
Ouais. Oui, c'est ça. Les morceaux ont été écrits très vite en fait. En 2019, on était en pleine tournée, on était à fond, ça marchait de mieux en mieux. Et on avait déjà envie d'une suite, donc on avait commencé à écrire voilà, plein de choses. Ensuite, il y a eu le coup d'arrêt du Covid, et puis avec grand coup sur le moral.
Derrière la nuque, voilà.
Le démarrage a été, enfin, je pense pour tout le monde, mais c'est vrai que en plus avec un projet comme celui-là qui est encore autre chose qu'un groupe classique, on va dire, remettre tout ça en branle, il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup
c'est 15-20 personnes à remettre dans le même sens.
J'aime bien l'image d'une péniche avec des pagaies.
Ok, oui, il faut que tout le monde pagaie dans le même sens, quoi.
Donc voilà, donc quand c'est déjà en route, c'est bien. Quand c'est à l'arrêt, c'est compliqué.
Et du coup, péniche avec des pagaies, ça me fait un peu penser aux esclaves. Bref, par rapport à Womp, qui était peut-être un test, vous êtes allé encore plus loin sur Evolution. Vous êtes vraiment mis à fond. Qu'est-ce que vous êtes allé essayer, des nouvelles choses peut-être?
Je pense qu'on y allait sans complexe, en fait. On a vu que Womp fonctionnait. Womp, comme je te l'ai dit, a été fait très très vite et j'en suis assez fier parce qu'il était vraiment réalisé en quelques semaines. Hein.
Alors qu'un truc qui était totalement nouveau pour vous en plus.
Et là sur Evolution, on a pris le temps d'écrire des morceaux, de choisir des morceaux. On a pris le temps aussi d'aérer les morceaux, c'est-à-dire d'écrire des parties où on pour avoir des choses guitaristiquement décomplexées et d'autres où on va laisser la place au bidon, d'autres où on laissera la place au chanteur et où tout le monde n'est pas tout le temps à fond en même temps, justement pour avoir quelque chose de plus digeste.
Bah justement, tu vois, c'est ma question d'après, c'est comment vous avez abordé la compo, c'est-à-dire est-ce que vous avez simplifié les parties rythmiques des percussions, puisqu'on ajoute du chant, de la batterie, des éléments électroniques, de la guitare, de la basse, ça peut vite être fourre-tout.
Bah, en fait, le live a été, je pense, le meilleur test. La tournée qui a suivi le premier album, le Womp en tout cas, le premier album,
de cette nouvelle formule a
été absolument révélateur, formateur, et on s'est très vite rendu compte de ce qui fonctionnait en live et
ce qui fonctionnait pas.
Mais parce que les Tambours, c'est un groupe à voir en live. L'album est un prétexte à venir voir le groupe. Enfin, l'album est toujours un prétexte à venir voir
sur scène. Puissant en live.
Mais voilà, les Tambours sur scène, c'est une expérience, c'est quelque chose qui se vit vraiment. Donc, je pense que ce qu'on a gardé de cette expérience live, c'est voilà, le prochain album, qu'est-ce qu'on va faire de mieux, qu'est-ce qu'on a appris de, pas nos erreurs, en tout cas, qu'est-ce qui est perfectible et améliorable.
Et pour aller plus loin, moi, ma fierté personnelle, c'est que pendant longtemps, les Tambours, forcément, c'était pas évident à écouter sur album, surtout quand il y avait Boom Boom.
C'est grand public en concert, mais moins sur album.
Exactement.
Paradoxalement.
Voilà, j'avais toujours une pensée pour les gens qui achetaient le CD au merch et ensuite qui écoutaient ça dans sa voiture. Là, maintenant... Tu peux vraiment l'écouter dans ta bagnole ou ailleurs, ou
c'est
même
comme
dans ton salon. Et on est vraiment fiers de ces morceaux que tu peux écouter sans voir le groupe, même s'ils prennent une autre dimension en live.
Bien sûr, bah, tout le côté percussion, c'est un autre niveau en live. Est-ce que ça a été difficile, notamment dans le mix aussi, de laisser la place un peu à tout le monde?
Alors, moi, c'est pas mon problème, c'était le problème d'Ashka. Il était prévenu que ça allait
Ashka
être la merde.
De Ramakara Studio, du coup.
Il le savait très très bien, il s'est débrouillé comme un grand.
Oui, il a accepté la seconde mission, parce qu'il y a eu la première mission sur
peut-être
le premier album.
Peut-être que la première fois, il s'est dit, je sais pas dans quoi j'ai mis les pieds, et la deuxième fois, il savait.
La première fois, je l'avais averti, il a compris, la deuxième, il savait où il allait.
Oui, mais encore une fois, là, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que quand on a une équipe qui fonctionne, c'est évident que quand un premier album comme celui-là amène à une tournée, soit aussi perçu par le public comme quelque chose de bien,
de légitime. Un petit peu, ouais.
Bah forcément, sur un deuxième album, tu as envie d'aller te pousser un petit peu plus loin et te challenger. On sait tous.
Tous
autant qu'on est.
D'ailleurs, Dom, tu préfères la guitare ou les percussions?
Moi, je suis guitariste à la base. Hein. J'étais déjà guitariste avant d'intégrer les tambours au bidon. C'est difficile. Quand j'ai intégré les bidons, moi, mon but à l'époque, c'était de vivre de ma musique. C'était un rêve. C'est peut-être un truc qui se perd un petit peu maintenant. Ça y est, je vais faire le vieux con, mais. Moi, j'avais des posters de rockers dans ma chambre et je voulais faire pareil. Je voulais vivre de ma musique. Et quand les Tambours m'ont proposé à l'époque d'intégrer le groupe, c'était mon entrée vraiment dans le monde du business de la musique. Là. Voilà, une vraie porte d'entrée. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, je les ai vus jouer. Ils tapent sur des bidons, la percussion, ça n'a jamais été mon truc, mais c'est incroyable l'énergie qui est dépensée, qui se dégage.
De juste les percussions, tu veux dire?
Simplement les percussions, même à l'époque, même les tambours avec uniquement des percussions, c'est extrêmement violent. On a beau avoir, c'est ça qui est incroyable, on a un public tout public, familial et ce que tu veux, mais le concert est quand même incroyablement violent.
Très métallique,
au niveau
même
de l'énergie
sur, même sur ça,
et tout ce que tu veux. Donc moi j'étais déjà guitariste en intégrant le groupe, mais le fait qu'on me propose, écoute, il y a une place au bidon, c'était, mais bien sûr, évidemment. Là où j'ai déchanté, c'est la première fois où j'ai tapé sur un bidon. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas cool du tout. C'est super cool à regarder, mais c'est extrêmement désagréable, il faut le savoir.
Ça j'ai essayé, hein.
Et alors
j'ai arrêté.
c'est brutal pour le corps. C'est ça fait mal aux mains, ça fait mal aux bras.
C'est pas agréable du tout.
Ça fait mal aux oreilles, c'est très dur.
Et du coup, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un batteur en plus, quoi?
Bien sûr.
Il y a toujours besoin d'un batteur. Et ben, on va écouter un deuxième extrait de votre dernier album, Evolution. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner 2 places pour le concert de Megadeth mercredi 19 juin au Zénith de Paris, offerte par Gérard Droit aux productions. Pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande, au barwoman également, et je tirerai au sort en fin d'émission. On écoute tout de suite Razorback, un duo au chant entre toi Stéphane et le groupe de rap hardcore néerlandais Dope D.O.D. Razorback tout de suite.
Strikes back.
C'était les Tambours du Bronx avec Razorback. Alors c'est quoi l'histoire de ce morceau et notamment la collaboration avec le groupe néerlandais Dope D.O.D.
Je suis un super grand fan de crossover depuis très longtemps et notamment de la fameuse compile avec tu sais, Biohazard Onyx.
Alors j'ai plus le nom là mais...
Oui, Zombie Slayer aussi, c'est là.
Je sais pas.
Bref, vous les connaissez tous.
Vous savez quoi.
Voilà, on ira chercher sur internet.
Non, j'aime les crossovers, j'ai toujours eu envie. En fait, les Tambours du Bronx, c'est multiculturel. Il n'y a pas que des rockers qui font de la percu et occasionnellement du métal. On kiffe le hip-hop et d'autres styles de musique, même si on est essentiellement rock. J'ai toujours eu envie de faire un truc avec des rappeurs, et si possible, des rappeurs et des guitares. Et on avait ce morceau, voilà, Razorback.
Donc vous l'aviez composé avant de contacter Dope D.O.D. du coup.
Ouais. On avait le morceau. On avait le morceau. On avait Steph qui avait un refrain dessus.
Ouais, enfin, vas-y, continue ton histoire, je vais raconter la mienne après.
Ouais, ok.
Deux points.
On a toujours eu sur ce morceau cette idée d'avoir un rappeur dessus. On savait juste pas vraiment le.
Il y a du choix.
On a proposé à deux ou trois. Et il y a Dope D.O.D. qui a dit oui tout de suite.
Et donc, quand Dope D.O.D. dit oui, Dom m'appelle, c'était un samedi après-midi, je me rappelle, j'étais dans ma régie, je travaillais, sur, je sais pas.
T'as une très bonne mémoire de où tu es à chaque fois que ça se
oui,
passe.
Absolument.
Tout à l'heure, t'as cité la voiture.
J'ai un très beau...
T'étais en train de manger quoi?
Je ne mangeais pas, je n'avais pas faim, je faisais du death metal.
Donc,
je mangeais peut-être un enfant, je ne sais pas. Donc Dom m'appelle, il me fait « Bon voilà, Dope D.O.D. Veulent faire le morceau ». Par contre, faut que tu écrives les paroles là, tout de suite, maintenant. Je fais pardon.
Là, tout de suite.
Faut leur envoyer les paroles parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils repartent en tournée.
Ah, les paroles de leur couplet ?
Non.
Ah,
non,
les paroles du refrain.
Ils voulaient qu'on leur donne un genre de guide, tu vois.
Ouais, un thème un peu.
Qu'on les guide un tout petit peu. Ils voulaient qu'on les démarre, en gros.
D'accord.
Alors, okay. Oui, eux ont créé leurs paroles, mais voilà, il fallait un refrain, il fallait une idée de base.
Et t'es parti sur quoi, du coup ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ?
The Wild Pack, quoi. La meute, en fait.
Okay. On a fait un ping-pong. Moi, j'étais dans le camion. On partait en concert et j'avais l'ordinateur sur les genoux et moi, je leur envoyais des bouts de texte. J'ai corrigé deux trois trucs. On s'est mis d'accord.
On a fait ça en une après-midi, en fait. Et c'est aussi ça qui est génial dans ce genre de collaboration, c'est que le facteur temps est parfois indispensable. C'est-à-dire, voilà, on a Dope D.O.D. qui sont OK pour faire le feat. Ils n'ont pas beaucoup de temps. À nous d'être réactifs. Moi, j'avais quelques paroles. J'avais écrit des paroles en rap.
J'imagine qu'au bout de 40 ans de carrière et plus, on a toujours des petits trucs.
Pour les tambours, c'est encore différent. Je travaille beaucoup sur les rythmiques, sur les sonorités,
okay.
Plutôt que je vais raconter une histoire. Je raconte des histoires, mais différemment.
D'accord.
Je pars plus sur de l'envie, de ce côté percussif, quelque part, qui rejoint la musique.
Okay.
C'est ce que j'ai essayé de faire sur ce Razorback. Et voilà, on s'est fait des ping-pong, genre, voilà, mais attends, non, ça marche pas. Wild Pack, non, ça c'est pas bien, ça peut faire un rapport à trop de trucs, pas bien. Donc, voilà, on a réussi à monter ce refrain.
C'était quoi ? C'était le Wolf Pack qu'il fallait éviter à tout prix.
Ouais, Wolf Pack.
Il y avait trop de références.
Ouais, trop de références à des orsons de notre histoire.
D'accord.
Donc, non, mais moi dans ma tête non plus, mais en fait, oui. Donc,
on avait une idée qui était géniale. En fait, mais on a juste vérifié que cette idée, c'était
tout
pas une
peut être mal interprété aussi.
Exactement. Hein, et voilà. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement quelques soucis historiques.
Donc,
ok.
Mais donc voilà, ouais, c'est vrai que ça fait. Moi, je suis hyper fier d'avoir fait qu'on ait fait ce morceau ensemble.
Ça sort un peu des sentiers battus aussi, du coup.
C'est aussi un challenge, c'est-à-dire soit ça match ou ça match pas. Et le fait est que si c'était pas recevable non plus par Dope D.O.D. Ça aurait été non les gars on fait pas le feat parce que ça ne nous inspire pas.
Finalement ça passe plutôt bien, on dirait vraiment que c'est un groupe, déjà Dope D.O.D. c'est un groupe de rap hardcore, donc mais voilà, là on dirait vraiment que c'est un groupe qui a composé vraiment ce morceau. C'est ce qui est cool, c'est que du coup Stéphane, dans les Tambours du Bronx, t'as une approche différente que dans Loud Blast notamment. Voilà, ça permet aussi de faire autre chose, quoi, de sortir un petit peu de ce que tu fais avec Loud Blast, etc. Que ce soit dans le chant, dans l'écriture, dans l'approche.
C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, malgré aussi les les carcans qu'on a aussi dans une musique quand elle est extrême aussi, où on est toujours dans le même mood, même moi le premier, hein, je vais pas dire le contraire.
Si tu sors trop des sentiers battus, les fans sont pas contents.
Et je t'avouerai que maintenant, je
pense que tu t'en fous.
Je mens. j'ai envie de me faire plaisir. Et non, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'avec les tambours, il y a cet espace de liberté aussi où je me sens à ma place aussi. C'est-à-dire que je joue mon rôle dans les tambours, mais je ne joue pas un rôle. Je me sens chez moi. Et c'est vachement plus, c'est grâce à eux d'ailleurs, parce qu'ils m'ont intégré comme étant...
Comme un membre à part entière.
À part entière, et c'est tellement plus jouissif de se retrouver intégré dans ce genre de projet, ce qui avait été le cas aussi dans d'autres formations.
Bien sûr.
Mais oui, en l'occurrence, c'est un autre exercice, c'était aussi ça le challenge. J'aime bien me challenger, j'aime pas rester dans un seul mood, dans un seul rôle. Ce serait trop facile et je me ferais chier. Ça fait 40 ans que je fais ça, donc j'ai aussi
envie de voir autre chose.
Ouais, et puis sans multiplier les expériences pour juste multiplier les expériences, juste se faire plaisir et se sentir à sa place.
Et s'éclater sur un projet avec un peu de challenge et d'enrichissement, comme tu le disais tout à l'heure, notamment par rapport aux chanteurs.
Et avec les tambours, ce qui est génial, c'est que c'est un challenge à chaque fois. Chaque concert est un challenge.
Ok. Alors, il y a deux, en plus de Dope D.O.D., il y a un deuxième guest sur votre album Evolution, c'est Andreas Kisser, t'en parlais tout à l'heure. C'est le guitariste du groupe brésilien Sepultura, donc sur le morceau Chaos. Alors, même question, comment s'est faite cette collab notamment? Est-ce qu'il a enregistré avec vous? Enfin, voilà, comment ça s'est passé pour ce morceau? Est-ce que vous lui avez envoyé un morceau? Est-ce qu'il a travaillé avec vous? Enfin, voilà, comment ça s'est passé?
En fait, c'est un morceau. Alors, je balance tout, attention.
Oh là là là.
C'est un morceau que j'ai écrit sur mon chat. Eh oui.
Wow.
J'avais un chat qui était très vieux, qui avait 19 ans, qui était un chat qui était punk dans sa tête, que j'aimais beaucoup, qui est décédé il y a assez peu de temps. Et c'est une chanson sur mon chat. Bref. Et c'est une démo que j'ai depuis assez longtemps. Et à l'époque où on jouait avec Sepultura, un jour je demande à Andreas s'il voudrait pas faire un solo dessus. Donc je lui passe le morceau, il me tape sur l'épaule, il me dit ouais, super morceau. J'attends un peu et quelques jours plus tard, il revient, il me file une clé USB.
Tiens, ton solo.
Voilà, tout simplement. Moi, ça a pris quelques années avant de sortir ce morceau, mais voilà, on avait le solo.
Ah, c'est super comme histoire, un peu moins pour ton chat.
Il a... Non, mais ce que je trouve appréciable, c'est qu'il n'a rien demandé. Andreas, tu vois, c'est un mec qui est comme ça, en fait.
Hyper simple.
Tu lui fais écouter un truc, il l'écoute déjà avec plaisir et s'il le kiffe, il le fait.
Et il l'a fait. Et bien, puisqu'on parle de Sepultura, on va faire rapidement un focus sur un concert disponible sur la plateforme The Pit. C'est votre concert des tambours du Bronx avec Sepultura en septembre 2013 sur la main stage du festival Rock in Rio pour un concert baptisé Metal Veins. Alors, toi, tu étais percussionniste, du coup, évidemment, à l'époque. Quel souvenir tu en gardes de ce concert? C'est pas votre premier concert avec Sepultura, évidemment, mais c'est voilà, un gros concert qui a été filmé. Rock in Rio, main stage, avant Metallica, tout ça, quoi. Quel souvenir t'en gardes? C'était comment?
Des tas de souvenirs. Tu veux Rock in Rio en général ou vraiment celui-là en
celui-là,
particulier?
Celui-là, ouais, notamment. Ouais.
Bah, celui-là en particulier, il n'y avait plus de surprise parce qu'on avait fait plusieurs Rock in Rio. C'est le dernier Rock in Rio qu'on a fait avec eux. Je veux pas paraître méchant, mais à chaque fois qu'on a joué au Brésil, il n'y a rien qui allait. Jamais. C'est-à-dire que... C'était mauvais présage en permanence.
C'est
genre,
vrai.
Genre, t'arrives de Paris, ton matos est bloqué en douane, tu le retrouves 5 minutes avant de jouer. Voilà, tout se passe comme ça, systématiquement.
D'accord.
Bon, là, on avait moins la pression, parce qu'on avait l'habitude de se faire coincer notre matos en douane, du coup. Mais au moment de jouer, on se souvient vaguement qu'on est censé sortir quand même un DVD, Blu-ray, etc., que ça doit être enregistré. Mais en fait, on n'a jamais entendu parler de qui enregistre.
Comment, vous êtes juste monté sur scène et
comment,
puis...
où, non, si, en fait, avec mon ingé son, au moment, on s'est dit, on va aller chercher, il doit y avoir un camion. Il y a certainement un camion avec, avec
des
une
caméras,
régie, quelque part. Et on a tourné dans le festival à la recherche d'un camion. On finit par en trouver un, on frappe à la porte. Et les gars nous disent, ah, oh, vous êtes Sepultura, c'est cool, on attendait des nouvelles. En fait, non, on n'est pas vraiment Sepultura.
On est ceux qui jouent derrière avec les bidons.
Ouais. Et sinon, vous pouvez nous aider? Donc bon, on les a aidés comme on a pu.
Donc c'est grâce à vous que ça a été...
Et ça s'est fait comme ça. Non, c'était censé être enregistré, vraiment. Mais ce qui est dingue, c'est que personne n'était au courant de rien. À aucun moment.
Wow.
Sur une scène énorme. Alors, non, c'est le truc magique de Rock in Rio, il faut le savoir. C'est qu'il n'y a jamais rien qui est prêt. T'as l'impression d'aller tout droit à l'abattoir, que tout va mal se passer, et au final, tout se passe bien.
Bon bah tant mieux.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah tant mieux, bah voilà. Bon, en tout cas, c'était pas votre premier concert avec Sepultura. Vous avez même aussi travaillé sur un morceau de Sepultura, Structure Violence, présent sur l'album Kairos, sorti en 2011, voilà. Donc ce concert Metal Veins de Sepultura avec les tambours du Bronx, vous pouvez le voir sur la plateforme The Pit, thepit.com pour les abonnés. Vous pouvez vous abonner pour 6€ par mois, 66,6 euros par an. Il y a 7 jours d'essai offerts, c'est sans engagement. Il y a pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester. Il y a aussi le concert des 30 ans de Loudblast, voilà.
Ouais.
3 decades live ceremony. Voilà, exactement. Donc c'est ce type de concert au niveau des tambours du Bronx, c'est ce type de concert avec Sepultura qui vous ont donné envie de faire du métal, en tout cas de montrer que c'était possible d'associer les sonorités de tambours de métal, enfin de bidons de métal avec un groupe de métal. Vous avez joué dans le monde entier d'ailleurs. Vous imaginiez ça quand vous avez commencé ou pas?
Moi, quand je suis arrivé dans le groupe jouait déjà dans le monde entier.
Oui, donc, oui, c'est vrai que tu es arrivé, ça fait une vingtaine d'années.
Je suis arrivé en 2000. Voilà. Je suis arrivé en 2000.
2000, ouais.
Donc, je suis un faux jeune actuellement. Voilà. J'en ai vécu pas mal, mais j'en ai aussi zappé un bon paquet. Non, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, les mecs rentraient d'une énorme tournée aux États-Unis, donc je savais que ça jouait à l'international. Non, enfin, c'est toujours un étonnement, les tambours, le public qu'on a, les pays qui nous font jouer
vraiment dans le monde entier hein, pour le coup.
Ouais, c'est toujours surprenant, et même sur le show metal c'est surprenant parce qu'on a ce fameux public tout public, et encore une fois je le dis, c'est vraiment pas péjoratif parce que je trouve qu'en termes de tolérance c'est absolument génial, parce que quand on joue que du bidon c'est quand même fait avec une violence extraordinaire, et ça passe toujours auprès de ce public familial, mais ce public familial vient aussi nous voir maintenant sur le show metal. Donc il y a des tas de gens qu'on ne verrait pas à un concert de métal qui viennent voir un concert de tambour.
Il y a eu quelques festivals l'été dernier où franchement on se retrouvait au milieu de groupes de hip-hop, de groupes de jazz. Et franchement, enfin, on s'est regardé, on s'est dit waouh. Et on jouait pas devant 1000 personnes, on jouait devant 10 000 personnes. Et la magie a pris.
La magie prend.
Ah ben ouais. Je me rappelle, enfin même encore, c'est des moments où moi j'ai jamais le track, j'ai plus le track depuis très longtemps. Mais là, tu montes quand même sur scène, tu fais waouh, là c'est vraiment pas notre public.
Ça, c'est aussi une petite fierté quand même pour les tambours.
De donner le track.
C'est quand t'as des bubus puis des Renault qui arrivent avec les genoux qui tremblent.
Ouais, jusque-là, j'ai pas le joli cagneux quand même. Non, mais c'est vrai que c'est la grosse force des tambours, c'est jamais acquis en fait. C'est ça qui est génial. C'est que en fait, tu montes sur scène, t'as encore plein de choses à prouver. Et c'est absolument magnifique quoi. Moi je peux pas louper de concert avec le tambour.
Que quelqu'un ait autant d'années de carrière derrière lui dise ça, c'est cool.
Et les publics métal qui viennent nous voir sur les shows classiques. Donc voilà, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de. On est dans l'éclectisme et la tolérance.
Effectivement. Bah tiens, puisque tu parles de tolérance, est-ce que vous avez reçu des critiques négatives de la part de puristes, on va dire, après la sortie de Womp ou de Evolution, c'est-à-dire des gens qui disent ouais non mais vous avez renié votre identité.
Oui, bien sûr, on en a pris plein la gueule, mais on a l'habitude.
Les amis dans les bidons en fait.
Non, mais voilà, j'aimerais pas être à leur place.
Il faut te dire qu'un concert des tambours du Bronx, on a aussi beaucoup joué dans les théâtres, les maisons de la culture et les choses comme ça. Donc très souvent, tu vas faire un public d'abonnés, dont une bonne partie va voir tous les concerts puisqu'il est abonné, et puis si ça lui plaît pas, il s'en va. Donc on a l'habitude de voir les derniers rangs s'en aller. Généralement, c'est que quelques rangs. Mais depuis très très longtemps, on joue pour quelques rangs qui s'en vont fâchés parce que c'est inadmissible. Il y a des gens qui s'attendaient à voir Stomp, par exemple.
Oui, alors ça n'a rien à voir.
Et qui voient Motorhead qui fait de la percussion. C'est un petit peu ça. Ça fait c'est un choc pour certaines personnes. Le passage avec des guitares, oui, ça a été un autre choc pour d'autres intolérants, on va dire. Je reste persuadé que la même musique samplée, ou sur bande, voilà, des guitares sur bande, peu importe, en tout cas une guitare qui n'est pas montrée, ça serait passé beaucoup mieux.
Sans attitude, mais les tambours c'est de l'attitude avant tout.
Mais le fait de l'assumer, bon, il y a toujours des gens qui ne s'y attendent pas, qui viennent voir les tambours du Bronx, qui pensent voir les tambours de 87, voire Stomp, et qui tombent sur un concert de métal, bon, il y a des gens à qui ça fait un petit peu bizarre. Donc on a l'habitude.
Bah d'ailleurs, Razorback, qu'on vient d'écouter, c'était le premier single de votre album Evolution, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est plutôt couillu de choisir, parce que là, pour le coup, vous étiez vraiment sorti de votre registre de base, quoi. Genre.
Ouais, mais en fait, le hip-hop fait aussi partie de notre culture.
Bien sûr, le new metal, il y a du rap, de toute façon. Il y y a des groupes de voilà, Body Count par exemple, enfin voilà, Rage Against the Machine, enfin voilà, de toute façon maintenant c'est puis aujourd'hui il y a plein de groupes qui mixent un petit peu tout. D'ailleurs, est-ce que le nom de l'album Evolution, c'est un peu une métaphore de l'histoire du groupe, de ce que vous êtes en train de faire en ce moment?
Alors Evolution, c'est Steph qui l'a écrit, mais oui, c'est clairement une métaphore, pas seulement pour les tambours, hein.
Evolution, j'aime bien.
Nous allons tous vers le bon.
Et bon, on va faire une dernière pause musicale et on se retrouve juste après dans la troisième et dernière partie de l'interview. On va parler des concerts à venir pour les Tambours du Bronx. Il y aura également les questions flash, la chronique de Lolo du Hellfest Corner qui est toujours pas arrivé, donc j'espère qu'il sera là. Il va vous parler, s'il est là, du projet métal pour les enfants baptisé Eldebert. Et je rappelle une dernière fois aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner 2 places pour le concert de Megadeth mercredi 19 juin au Zénith de Paris, offerte par Gérard Roux Productions. Il faut demander aux barman et barwoman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort dans 15-20 minutes environ. Tout de suite, on écoute le dernier single des Tambours du Bronx. Il est sorti mi-mars, voilà, il y a quelques jours. Ce morceau s'appelle Am I Dead Enough et il n'est pas sur l'album Evolution. C'est parti, les Tambours du Bronx, Am I Dead Enough. C'était les tambours du Bronx avec le morceau Am I Dead Enough. Je suis toujours avec Dom et Steph pour la dernière partie de l'interview. Si vous avez raté le début, l'émission sera en podcast à partir de demain midi 13h sur tous les services de podcast existants ou presque, YouTube également. Et la version vidéo intégrale de cette émission sera en ligne la semaine prochaine ou la suivante. Voilà, on sait pas trop. Ce morceau Am I Dead Enough qu'on vient d'écouter, c'est votre dernier single sorti le 13 mars il y a 2 semaines. Alors c'est quoi l'histoire de ce morceau qui était à la base prévu pour Evolution? Donc si je comprends bien, il faisait partie des 30 morceaux qui avaient été d'abord enregistrés, etc. Voilà, c'est quoi un petit peu l'histoire de ce morceau?
Bah, on a écrit plus d'une trentaine de morceaux, on en a sélectionné une vingtaine qu'on a enregistrés et on a mis 12, je crois, sur l'album.
Donc l'idée c'est qu'il va y avoir un EP qui sortira peut-être en fin d'année, en début d'année prochaine. Enfin,
d'accord, je savais pas qu'il y avait un petit EP prévu avec les inédits.
EP qui est prévu parce que en fait les morceaux qu'on a enregistrés, c'est les morceaux qu'on aimait vraiment.
C'est pas des inédits en fait, hein. Ce sont vraiment des morceaux qui auraient pu être sur l'album.
Simplement, on nous a dit vous pouvez pas mettre tout ça sur un disque, ça tient pas, c'est trop.
D'accord. Et donc du coup, bah voilà, bon, peut-être 4, 5, 6 morceaux que vous aimez bien. Ok. D'accord. Et ce qui est intéressant sur ce morceau, c'est qu'il y a les 3 chanteurs dessus. Donc il y a Renaud, Stéphane et Renato. Je crois que c'est le premier avec les 3, si je dis pas de bêtises. Hein.
Bah, en fait, ça s'est imposé. Enfin, ce morceau. C'était un peu une palette un peu libre. Moi j'avais écrit, j'ai écrit en 2 fois ce morceau d'ailleurs. J'avais écrit une première version qu'on n'avait pas retenue, qui était plus.
Tu sens le reproche?
New Wave. C'est trop New Wave. Mais moi j'adore Cure. Enfin, j'adore les Cure. J'adore.
Ça doit être très surprenant de te voir chanter sur un truc un peu new.
Ah, je suis très surprenant.
J'étais hyper surpris.
Donc il fait voilà, c'est too much. Je dis, oh, putain, tu me dis ça, c'est too much. Quoi. Donc je revois ma copie et donc j'écris autre chose. Donc une bonne partie de ce titre-là.
Ouais.
Et au moment d'enregistrer le morceau, Renato me dit mais moi j'ai fait aussi. J'ai écrit des
de
choses.
De la new wave.
Non, lui il a plus fait. Oh,
okay.
Donc on a confronté nos deux mondes. On s'est dit bah en fait on peut en faire un seul morceau. Enfin on peut garder le meilleur des deux mondes. Et forcément Renaud est arrivé. Ouais les gars alors ouais, je vais vous proposer un truc.
Moi aussi je veux faire.
Et ça a été vraiment un morceau collégial. C'est-à-dire que vraiment au moment de l'enregistrement de ce titre en studio, on a essayé plein de choses en fait. Il y a eu plusieurs versions, on enregistrait plusieurs versions et au moment du mix Dom a tranché parce qu'il fallait quelqu'un qui tranche et on a essayé de faire que ce morceau ressemble à ce que sont un condensé de ce qu'est Womp actuellement et je trouve que ça représente vraiment ce que le groupe, enfin en tout cas cette formation
représente,
peut donner.
Alors je vais balancer quand même une news incroyable. Non, j'ai tranché après le mix. Il y a 2 versions de ce morceau.
Ouais, ah, ouais.
Là, on a sorti une version du morceau.
Ah, mais il faudrait écouter sur l'EP peut-être.
La version, je sais pas, c'est la version director's cut, mais
en fait, ce morceau,
la version studio n'est pas encore sortie. Voilà, quand on sortira
l'EP.
Il y aura la version d'origine.
D'accord, ok, bah voilà.
Mais voilà, c'est un morceau construit de part et d'autre, enfin en tout cas différemment, et on a réussi à en faire un morceau qui
assez
qui
cohérent,
est,
assez.
Ah bah, pas assez, qui est cohérent.
Qui est complètement.
Sinon, on ne l'aurait pas sorti.
Ah oui, effectivement.
Ce que j'aime beaucoup moi, dans ce morceau, c'est qu'il y a les 3 chanteurs, chacun avec une place vraiment définie, et qu'il y a aussi beaucoup de nuances. Dans le morceau.
Voilà, absolument.
J'aime beaucoup, je trouve que ça marche énormément avec les tambours, avec un déchaînement de violence et aussi des passages plus calmes, plus mélodiques. Et ça prend tout son sens.
Et donc, a priori, vous le jouez en concert, ce morceau, sur votre tournée qui arrive.
Voilà, on a commencé il y a 3 jours.
Il y a 3 jours.
La semaine dernière.
Et je vais chanter pour la première fois ce week-end.
Sans répète. Et peut-être même sans balance.
Sans répète et sans balance.
On est pro ou on ne l'est pas, hein.
Transition parfaite, on va parler de vos concerts et donc on va bien spécifier les concerts métal et ceux qui sont plus classiques, percussion. Concert métal d'abord, vous faites donc 3 dates avec Clone, Nanowar of Steel et Psycup. Demain soir, vendredi 29 mars au Bikini à Toulouse, samedi 30 mars au Transborder à Villeurbanne près de Lyon et dimanche 31 mars au Trianon à Paris. On vous retrouvera également le 13 juillet au Limo Fest à Albaz dans le Lot, le 24 août au Furios Fest à Saint-Flour dans le Cantal, le 4 octobre au Forum de Vauréal dans le Val-d'Oise. Niveau concert classique, juste percussion, le 13 avril, vous serez au Théâtre de Mende en Lozère. Le 18 mai, au Centre culturel de Sarlat en Dordogne. Le 31 mai, au Parc de Ribeauvillé en Alsace. J'ai l'impression de faire la météo. Le 6 juillet, au Fadas du Barouf à Pons en Charente-Maritime. Le 19 juillet, à la Poétrie à Saint-Sauveur en Puisée dans l'Yonne. Le 1er septembre, à Infi dans la Nièvre. Et le 21 septembre, à Gien dans le Loiret. D'ailleurs, il y a une dernière date qui a été annoncée la semaine dernière. C'est le Mency Metal Fest qui aura lieu les 6, 7 et 8 septembre. Vous y jouez, mais avec quelle formation du coup? J'ai pas vu.
Je pense avec la formation métal. Hein.
Formation métal, d'accord.
Il y a d'autres dates qui vont être annoncées aussi.
Ouais. Il y a d'autres dates.
Je crois que l'usine est annoncée le 1er juin.
Bah, j'ai pas vu passer.
À Istres.
J'aurais peut-être raté parmi tout.
Avec Benighted.
Ok, d'accord. Notamment. L'usine, bah, voilà. Bon, j'invite les gens évidemment à voir sur votre site, sur vos réseaux, etc. pour voir les autres dates.
Oui, parce que le planning n'est pas encore fini et il y a des dates qui continuent de tomber.
Exactement. Bah, c'est la question que j'allais poser. Donc, oui, il y a des dates qui vont pas mal tomber cette année.
Oui, des festivals en l'occurrence pour cet été aussi.
D'accord, et des festivals cet été. D'ailleurs, ça doit être assez compliqué avec tous les groupes et projets des uns des autres pour les tournées. Voilà, on sait, quand on va vous voir, on ne sait pas trop s'il y aura Stéphane, Renaud, Renato, les trois, les deux, on ne sait pas trop.
Alors, c'est un petit peu le jeu, et puis en même temps, je trouve que c'est quelque chose d'assez plaisant au final. Parce que, bon, on a parlé de Steph, on a parlé de Renato et de Renaud. On a également Flo, pour ceux qui connaissent le groupe 633. Qui est en renfort.
Donc c'est le backup, du backup.
Exactement le backup, du backup. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'à chaque fois, on a une dimension différente du concert. Ça permet de ne pas s'ennuyer. Les gens qui viennent nous voir deux ou trois fois de suite ne voient pas le même concert.
Selon les gens qui sont là.
Suivant si c'est Renaud ou Steph en lead ou Renato ou avec un autre en support, etc. On a encore une interprétation différente à chaque fois. À chaque fois plutôt bluffante.
Mais du coup, les chanteurs doivent apprendre les parties des autres aussi.
Oui, ouais, mais c'est aussi ça le challenge. C'est que sur ces dates-là, on joue une heure, mais globalement, c'est plutôt 1h30, 1h45. Donc, c'est sans filet. C'est-à-dire que tu dois savoir connaître les parties de tout le monde.
S'adapter, etc.
On essaie toujours d'avoir au moins deux chanteurs. Ça leur permet quand même
Mais particulièrement avec le nouvel album, c'est encore plus compliqué parce que voilà, il y a aussi ce ping-pong entre deux ou trois chanteurs qu'il faut savoir maîtriser.
Mais en tout cas, comme je l'ai dit dans ma liste là, qui était déjà très longue, ça montre que vous voulez toujours continuer le format classique en live de juste les percussions. Mais alors sur album, est-ce que vous pourriez retourner à des albums que percussions ou pas ? Ou le retour est impossible ?
Non, c'est une bonne question. En fait, on ne sait pas si on a envie de refaire un album classique. On appelle ça le show classique. Voilà. Parce que... jusqu'à présent, il n'y a pas non plus un intérêt formidable pour les albums,
Instrumentaux, albums classiques.
C'est avant tout un prétexte à la tournée. Bon, est-ce qu'on a encore besoin vraiment d'un prétexte à la tournée dessus ? On ne sait pas. C'est pas complètement fermé. Ça dépend de l'interprétation. Peut-être que l'album métal pourrait un jour déborder sur le classique. Peut-être qu'on pourrait amener le classique vers d'autres. D'autres horizons avec quelques sonorités. Exactement.
En tout cas, sur Evolution, il y a quand même le morceau Double Devils qui est juste instrumental, un petit peu plus dans votre veine, un petit peu d'avant, on va dire en quelque sorte. En tout cas, il n'y a pas de chanteur. Peut-être que vous avez oublié de l'enregistrer avant d'envoyer le disque au pressage, j'en sais rien. Mais...
ils n'ont pas eu le temps d'écrire de texte.
C'est la personne qui s'est occupée du mastering. Il a muté les pistes des chanteurs et il a envoyé ça. Écoutez, c'est presque la fin de cette interview, mais avant de se quitter, on va passer une petite série de questions flash. Voilà, le concept est simple, c'est une série de questions plus ou moins intéressantes. Vous chantez quoi sous la douche ?
Je ne chante pas sous la douche, sinon je me fais engueuler.
Alors, Sardou.
Michel Sardou.
Salaud.
Quel est l'album qui vous a le plus marqué ? Si on devait en retenir qu'un.
Supertramp, Breakfast in America.
Je sais pas, ça dépend des jours en fait.
Quel est votre meilleur souvenir de concert ? Alors, si c'est un concert des Tambours du Bronx, c'est cool, mais ça peut être un concert que vous avez vu en tant que public aussi. Pas facile, j'imagine, quand on a autant d'années de carrière.
Premier concert de Slayer en Europe à Poprang en 1985. J'étais au premier rang.
Waouh, j'étais pas né.
Et avec les Tambours du Bronx, j'avais adoré le Motocultor. Ça avait été un sacré concert, ça.
C'était quand ça ?
C'était il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus.
2018, je pense. C'était pas loin d'être la première de Womp.
Ouais.
Après moi, souvenir de concert, j'en ai eu tellement avec les tambours, des trucs extraordinaires. Pareil, c'est difficile de choisir. Ça pourrait être la première fois qu'on a joué au Brésil, sans métal, sans rien. On était invité à un festival de percussion. On était invité à un festival de percussion. Et il n'y avait que des blancs aisés dans le public. Et en fait, on avait terminé. Après le concert, on a pris nos bidons. On a décidé de jouer gratos dans un parc pour les gens moins blancs, moins aisés. Ça avait cartonné, c'était absolument c'était génial. Ça fait partie des souvenirs très très émouvants en fait, le fait de pouvoir rameuter autant de monde, content de pouvoir assister à quelque chose de hors norme, parce que bon, les tambours. Il faut se dire aussi une chose quand même, c'est que les tambours du Bronx en tant que percussion, c'est complètement hors norme. On respecte aucun code, il n'y a rien à voir avec la percussion traditionnelle de nulle part. Donc ça nous arrivait plusieurs fois de jouer dans des pays de la percussion, que ce soit en Afrique ou au Brésil notamment, où on commence par nous regarder comme des extraterrestres avant de rentrer dans le jeu et d'apprécier. Et je pense que ça, c'est un, si tu veux, le moment pivot où les gens arrivent à trancher et se disent finalement c'est génial. Auparavant, ils sont pas sûrs. Et ce moment-là est incroyable.
Bah en tout cas, c'est bien cette histoire. Ça montre que la musique doit être aussi populaire, au sens pour le peuple, entre guillemets, pour les gens qui sont pas blancs et aisés. Et c'est quoi votre pire souvenir de concert ? Concert raté, un son pourri, une anecdote horrible. Alors déjà, au Brésil, tu as dû en avoir pas mal avec tous les trucs bloqués aux frontières, etc.
Alors, le Brésil, c'est un mélange de bons et de mauvais souvenirs. On peut en parler plus tard, si tu veux. Non, mon pire souvenir, je pense que c'était à Carthage. On jouait avec les tambours du Burundi. C'était les tambours du Bronx et les tambours du Burundi. Et je sais pas, il n'y a rien qui marchait. Rien. Rien.
Rien du tout.
Non, il n'y a rien qui passait. Tout ce qu'on jouait, c'était nul. Tout ce qu'on faisait, c'était de la merde. Il y a absolument... Enfin, tu sais, les...
Des jours sans.
Ouais, mais enfin, là, tout était réuni pour que ce soit vraiment sans. C'était ce qu'on appelle une catastrophe. Voilà. Donc c'était un moment extrêmement pénible où j'ai même vu des gens du groupe se barrer de scène carrément à tel point pouvaient plus. Et toi, t'as très très envie de te casser, mais tu te dis je peux pas laisser les quelques gars qui restent.
Non, à la fin, il reste qu'une personne sur scène.
Je peux pas les laisser compliqué. Tout ça. Donc voilà, pour l'histoire, on a rejoué quelques années plus tard, on s'est vengé, on a fait un super concert au même endroit. Voilà. Mais je pense que c'est un traumatisme ce concert. Ouais.
Est-ce que t'as quelque chose qui te vient en tête ou pas ?
Ouais, mais je peux pas en parler.
D'accord. Bah, tu me le diras tout à l'heure.
Non, bon, voilà, c'est pareil, on y a rejoué, c'était vachement mieux. Mais voilà, c'est le genre de festival où tu joues trop tard, où tout se décale et tu joues à 1h du matin alors que tu devais jouer à 22h. Et qu'à un moment, tu lâches, tu dis allez vous faire foutre, je suis crevé, je suis en tournée.
J'ai pas signé pour ça.
Et que forcément, tu te rappelles plus trop de ton concert et que tu sors de scène, tu fais putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Et tu vois là, et surtout il y a une vidéo, c'est ça le pire, c'est que quelqu'un regarde. Je fais, oh non. Mais voilà, j'ai conjuré le sort et je suis retourné dans cette salle, en tout cas sur ce festival. Et
ça si bien. Vous y étiez, peut-être que vous avez de quoi parler.
En tout cas, j'y étais physiquement à ce moment-là.
Alors quand même, juste si t'as deux secondes, ouais. Rio en 2011, puisque tu m'en parles, c'était à la fois le pire et le meilleur concert.
Ok, avec les tambours du coup.
Avec les tambours et Sepultura, il faut dire que quand on est arrivé pour la toute première avec Sepultura, il faut imaginer la scène. Déjà, nous, on arrive au Brésil avec le matos coincé en douane, comme d'habitude. À chaque fois au Brésil, le matos reste coincé en douane. Bon, voilà, ça c'est une habitude. Donc, moi, on n'avait pas encore l'habitude. On finit par nous libérer le matos, on fait une répète. Première répète avec Sepultura, ça ne marche pas.
Ah, problème.
Bon, on fait 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas non plus. À l'époque, c'était Jean le batteur, c'était avant Eloy. Et Jean a compris à ce moment-là, il fait non, mais attends, c'est bon, j'ai compris. En fait, vous êtes plutôt punk, ça joue à fond, pas de soucis, je simplifie. 1, 2, 3, 4, ça marche, de ouf, vraiment, tout le monde bluffé, ça cartonne. Donc, très très bien, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Et le jour du festival, on arrive sur scène et au moment de jouer, ça joue pas. Alors ça joue pas, pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse panne technique, il y a un gars a priori qui a branché un truc, qui a flingué la sono, qui fait que le concert n'aura pas lieu. Donc concert annulé, des tambours et de Sepultura. Alors essaye d'annoncer au Brésil que Sepultura c'est annulé, c'est très compliqué. Donc la grande scène commence à jouer, puisque la petite scène c'était la nôtre, on était en tête d'afficher annulé. Ça pète les plombs.
Bah ouais. Donc la émeute, grande, je crois.
La grande scène se fait caillasser. La petite scène, il y a toujours plein de monde devant. Ça saute, ça hurle, ça crie. Et puis un jour, c'était. Enfin, au bout d'un moment, voilà, on me bouscule, on me pousse un grand coup. Finalement, ils ont arrêté la grande scène pour nous faire jouer.
Bah voilà, et puis et, le concert s'est tenu.
Et,
ouais.
Et ça joue. Alors, faut imaginer les petits Français en plein milieu d'un énorme festival où tout le monde se hurle dessus en portugais.
Surtout dans un go.
On enfin, ne comprend rien. Voilà, on comprend que ça va mal.
Et vous savez pas pourquoi.
On sait pas pourquoi, on sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas si. Et puis d'un seul coup, t'as un coup de pied au cul, puis tu te retrouves sur scène et ça joue. Et là, t'as des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sautent partout. Et c'est parti. C'est pour ça que c'est à la fois un très très bon et un très mauvais
film. C'est celui-là qu'il aurait dû filmer, du coup, ce concert. Depuis votre création, combien vous avez cassé de bidons et de maillotches ?
Oh, j'en sais rien. Des bidons, au début, on en faisait pratiquement un par concert. Attends, quand je te dis un, par personne, par concert.
Donc c'est-à-dire du coup, une quinzaine
le
par
jeu,
concert.
Le jeu complet, donc par concert. Maintenant, ils sont de plus en plus durs, donc ils font 2, 3, 4 maximum concerts.
2, 3, 4 concerts.
Le hangar est impressionnant.
Oui, Nevers, vraiment. J'imagine.
Quand
oui,
je suis arrivé là-bas, j'ai fait « Ah ouais, quand même, il y a ça, quoi ».
C'est-à-dire que tous les 1 ou 2 ans, on se fait livrer des semi-remorques complets. Ouais.
Ah ouais, j'imagine, ouais, ça doit être assez impressionnant.
Les maillots, on les fait faire, on en casse, allez, peut-être, je sais pas, 3 ou 4 par personne, par
allez,
concert.
Il y a un chiffre qui tourne sur Internet, je crois que c'est qu'en 2014, vous aviez cassé 16 000 bidons et 140 000 maillots, pardon. Donc voilà, c'est...
Je peux pas vérifier, on sait
non,
plus.
Non, mais je pense que c'est compliqué.
Plus, ouais, on en consomme énormément, ouais.
Quel est votre morceau préféré de votre album Evolution?
C'est dur, hein. Je dirais peut-être Lion's Share.
Ouais.
Et dernière question, pourquoi faut-il écouter cet album Evolution des
bah parce qu'il tue quoi, merde.
Parce que c'est différent de ce que vous attendez, c'est différent de ce que vous avez écouté. Et je trouve une autre proposition, pas que pour les tambours du Bronx, juste parce que c'est frais. Ça fait mal aux oreilles, mais à la fois c'est facile à écouter et c'est quelque chose que tu peux écouter dans ta bagnole, c'est quelque chose que tu peux écouter chez toi, c'est un album que tu as envie de voir sur scène aussi.
Je pense qu'il est très varié surtout.
Et on l'a pas composé comme ça en fait, c'est ça qui est génial dans le résultat final, c'est que quand tu mets tous les morceaux bout à bout, tu fais, bah, en fait ça raconte une histoire. Et c'est notre histoire à l'instant T aussi, tu vois. Et je trouve ça, c'est ce qu'on avait en tête tous, je crois, mais qu'on a réussi à faire.
Eh ben, c'est très beau. Alors, on sent le producteur qui parle. Merci beaucoup, Dom et Stéphane des Tambours du Bronx, d'avoir été avec nous dans cette émission ce soir. Je rappelle que votre dernier album, Evolution, est sorti en juin 2023. Et pas mal de concerts à venir cette année, que ce soit en version métal ou en percussion. Voilà, je vous invite les gens à voir sur votre site et vos réseaux. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
Et donc l'interview est terminée, mais ce n'est pas encore la fin de cette émission puisqu'on va passer à la chronique de Lolo du Hellfest Corner alias Laurent Rossi, qui va donc vous parler du projet Metal pour les enfants du chanteur Aldebert et qui s'appelle Aldebert.
Une fois par mois, Lolo du Hellfest Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de cœur musicaux.
Et bonsoir Laurent, est-ce que tu
bonsoir.
T'entends bien?
Oui, je m'entends très bien.
D'accord, super. Et du coup, parle bien dans le micro comme d'hab tous les soirs.
Tout à fait.
Comment t'as trouvé le concert de No Terror in the Bang mardi à la Boule Noire?
Eh ben, écoute, fort sympathique ma foi. Ça joue très très bien. Les garçons, ça serait bien qu'ils aident un petit peu la mise qui quand même tient tout le show.
Ah, c'est vraiment la front-woman.
Ouais, c'est vraiment front-woman. Et mais par contre ça joue très très bien, enfin c'était vraiment plaisant.
Ah, moi c'est un groupe que j'ai reçu en début d'année, j'ai adoré leur deuxième album, je trouve que c'est un groupe qui est en train d'évoluer, c'est cool. Ouais. Et en concert il y a de l'émotion, il y a de l'énergie, etc.
Quoi. Et ils sont lauréats du Fer cette année. Et des groupes de métal qui sont lauréats au Fer, il y en a assez peu.
C'est peu, ouais.
Voilà. Et c'est un signe.
Et c'est ainsi, et bah voilà, bah tant mieux, bah bravo No Terror in the Bang. Et bah si je t'accueille ce soir bah dans ton bar, c'est que tu présentes une chronique une fois par mois lors des émissions spéciales Hellfest Corner. Et ce soir tu as décidé de nous parler du projet métal pour enfants Aldebert, du compositeur, chanteur, etc. Aldebert.
Absolument, absolument, parce que justement, hein, quand on regarde bien cette année ce qui se passe, on a eu un Grand Prix SACEM pour Gojira, No Terror in the Bang qui est lauréat du Fer, et je crois qu'il n'y a jamais eu de groupe de métal qui aurait été lauréat du Fer. L'exposition qui
à la Philharmonie qui ouvre
Paris,
la semaine prochaine.
Ouvre la semaine prochaine.
Exposition sur le métal, hein, je précise pour
métal.
Ceux qui ne savent pas.
Voilà, notamment organisée par Corentin Charbonnier. Et en plus, effectivement, il y a ce projet pour enfants, Aldebert, porté par Aldebert. En fait, le métal, je pense que vous en rendez pas compte, mais c'est le genre qui progresse le plus en streaming. Et cette reconnaissance institutionnelle, finalement, c'est bien. Alors, chers métalleux, ne faites pas la connerie de « non mais on reste entre nous », parce que là, ce qui arrive pour des artistes, c'est formidable, et ce n'est que le début. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais parler du projet Aldebert. Alors en fait, l'histoire du projet, c'est que bah, quand je travaillais chez Sony, j'avais signé moi Aldebert, qui faisait de la chanson pour enfants.
Les mais qui est fan de rock, de métal. Il a joué dans des groupes de reprises de métal au tout début, quand il était au lycée ou je sais pas quoi.
Tout à fait. Voilà. Et il est très très fan de métal. Il n'aura jamais eu à Hellfest. Les tournées sont faites pour qu'il puisse aller au Hellfest. Enfin voilà. Et un jour, il avait fait un titre qui s'appelait Petit Vampire. J'ai fait, mais génial. Un jour, il faudrait qu'on fasse un album d'Halloween et on va l'appeler Aldebert. Où tu vas faire des histoires qui font peur.
Ah, c'est toi qui as donné l'idée.
Voilà. Mais en fait, lui, il l'a interprété comme « faut que je fasse un album de métal ». Il était très content. Et bah, au final, il l'a fait. Il l'a fait, le scud est incroyable. Alors là, je viens de demander à son manager si je pouvais te dire ce qu'il y avait en guest. Mais en fait, non. Parce D'accord. qu'il les dévoile petit à petit. Mais on sait déjà qu'il y a Max et Igor Cavalera.
Oh, de ancien de Sepultura, ensuite, voilà. J'ai plus le nom de leur groupe.
Soulfly.
Soulfly, merci.
Voilà, et qui font, pour le coup, c'est un titre sur le harcèlement scolaire, qui est vachement bien. Bien évidemment, je crois qu'il a dû le dire peut-être, mais il y a Stéphane Buriès qui est impliqué aussi.
Bah, non, il n'en a pas parlé parce qu'on est allé un
petit
peu...
pardon, excusez-moi.
Ah bah non, mais voilà. Bon, bah, c'est pas grave, écoutez, en exclu.
Voilà, dans ceux qui sont impliqués également et dont on le sait, c'est qu'il y a Serge Tankian de System of a Down.
Ah oui, pas mal.
Voilà.
Sacré projet de Aldebert. Ouais.
Et il y a Amélie Nothomb également.
Amélie Nothomb. Bah, je sais qu'elle est fan de métal, mais elle est très fan de Tool d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, je savais pas que.
Et donc elle est sur le projet. Les autres, en fait, tous les mercredis, Guillaume dévoile un des guests. Et
d'accord, ok,
avril.
Donc c'est en cours là.
C'est en cours. Et pour préparer cette chronique. Ils ont eu la gentillesse de me passer l'album. Voilà, donc on ne peut rien dire dessus.
Oh là là là.
Mais allez, juste pour toi, tiens, tu vas regarder.
Ah.
T'as tous les noms des guests.
Il y a tous les noms des guests. Ah bah c'est super. Ah bah je vais. Ah oui, d'accord, ok.
Je n'en cite pas. Hein.
Je n'en cite pas, d'accord. En plus, là, la caméra ne me voit pas. Ok. Oh oui, d'accord, ok, il y a du français aussi également.
Il y a du français aussi, voilà. Ouais.
Et il y en a où il n'y a pas de guest. Bon bah écoute, ouais. C'est ça promet, je crois que j'ai attrapé ton téléphone. Voilà, comme ça on ne le fait pas tomber.
Voilà.
Là, c'est super, c'est intéressant.
Et donc effectivement c'est un projet qui est super intéressant et musicalement qui tient la route. Donc fan de métal, je vous invite à l'écouter, parce que artistiquement ça vaut vraiment le détour. Surtout faites-le écouter aux enfants. Et il y a une tournée, et la tournée ça cartonne.
Il y a une tournée Aldebert, du coup.
Il y a une tournée Aldebert où, pour le coup, il n'était pas parti. C'était un projet un peu side project au départ. Et là, j'ai une discussion avec son manager qui me dit : ouais, mais on fait une tournée théâtre. Le vrai truc, c'est que il y avait 80 000 billets à vendre. Sur les 80 000, ils en ont déjà vendu 40.
Ah oui, donc.
Projet Aldebert. Donc ça
marche
de prendre
bien.
De l'ampleur, voilà. Alors que personne n'a rien écouté pour l'instant. Mais ça sort le 26 avril.
Ça sort le 26
Je
avril.
Je pense qu'on ferait quelque chose au bar, mais voilà.
Et eh ben voilà, ce sera peut-être un disque qui sera dispo au shop du Hellfest Corner, on ne sait pas trop. Ouais. Et eh ben merci beaucoup Lolo, je rappelle que tu interviens dans cette émission une fois par mois au Hellfest Corner. Et bien pour finir, un petit mot sur le Hellfest Corner avec voilà quelques petits événements qui arrivent en avril. Samedi 30 mars, ce samedi là, c'est la soirée beauf. Voilà, vous pouvez venir avec votre plus belle tenue de beauf et puis bon, j'imagine que vous allez peut-être pouvoir gagner des trucs, je sais pas trop. Vendredi 5 avril, notez bien la date, c'est le lancement de la nouvelle carte du Hellfest Corner. J'ai Vinny qui me surveille. Nouvelle formule, nouveau tarif en baisse, c'est important de le préciser, happy hour, un happy hour qui sera plus long jusqu'à 20h au lieu de 19h. Voilà, c'est des petites infos en exclu, donc ce sera à partir du 5 avril. Vendredi 5 et samedi 6 avril, il y aura deux soirées flash tattoo à partir de 21h avec la présentation de la nouvelle collection de vêtements The Cross Lifestyle. Jeudi 11 avril, c'est une soirée Jack Daniels. Vendredi 12 avril, c'est la soirée de lancement de Je t'aime pas, une marque de vêtements. Dimanche 21 avril, c'est le brunch de Jean avec deux services à midi et 15h sur réservation auprès du bar. Vendredi 26 avril, concert acoustique ici même du groupe de hard rock glam rock Arch. Arch, hein, n'est-ce pas Vinny, hein. Et samedi 27 avril, c'est la soirée Wall of Shame. Vous pouvez demander n'importe quel morceau. Les barmen le passeront sans broncher, mais ils pourront vous afficher au micro. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Hellfest Corner. Le podcast sera disponible demain vers 13h sur tous les services de podcast existants ou presque. Le nom, c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque vendredi. La version vidéo de cette émission arrivera dans quelques jours sur YouTube. La semaine prochaine, ce sera une émission en studio. Je recevrai le groupe francilien Souffre. C'est un groupe de métal moderne issu des groupes Raga Raja et Proxima. Leur premier EP, Dévotion Connexion, est sorti aujourd'hui le 28 mars. Ils feront leur release party vendredi 12 avril au Backstage à Paris avec Atlantis Chronicles et NDKH. Et vous allez voir, ça déménage. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et moi, je serai de retour au Hellfest Corner jeudi 25 avril pour une émission spéciale avec un groupe habitué à venir ici. Ce sont les Loco Muerte, le plus chicano des groupes français. On va parler de leur prochain album à venir cette année, en fin d'année. Et petit exclu, leur premier single arrive très 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 bientôt. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse.
Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.